recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Il n'y a jamais eu autant de francophones qu'aujourd'hui, et il n'y a jamais eu autant de gens mobilisés pour la francophonie qu'aujourd'hui. Véritablement, il y a les maniaques du déclin. S'il y a quelque chose qui n'est pas en déclin, c'est bien la francophonie, et après le français.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, puisque je vous parle ce matin en direct et en public du Salon du Livre, puisque la semaine de la francophonie s'achève, puisque nous nous piquons à ce micro de servir notre langue aussi ardemment que possible, un sujet s'est imposé, celui de l'histoire de la présence du français dans le monde à travers les siècles, entre flux et reflux, depuis qu'il a commencé de préciser sa nature, sa dynamique et son originalité. Mon invité est exactement adéquat pour en traiter au mieux, parce qu'il est l'un des savants les plus avertis dans ce domaine. Bernard Cerchiglini, naguère délégué général à la langue française et aux langues de France, a été recteur de l'Agence universitaire de la francophonie entre 2007 et 2016. Il est professeur de linguistique à l'Université de Paris 7 et aussi, j'ai à cœur de le souligner, membre de ce fameux OULIPO, ouvroir de littérature potentielle, où, en fidélité à la très haute figure de Georges Perec, les hommages les plus joyeux et les plus inventifs sont rendus à notre français. Envers ce français, Bernard Cerchiglini est riche tout à la fois de tendresse et de rigueur, prompt d'ailleurs à fustiger quelques poncifs contemporains, celui par exemple selon lequel la francophonie serait un combat essoufflé, pour ne pas dire désespéré, ou encore celui qui voudrait qu'elle ne fût qu'un simple avatar de la colonisation. Mais pour être efficace dans cette dénonciation des plus méchants clichés, il va falloir, comme toujours, chercher l'éclairage de la longue distance. Si l'on souhaite apprécier la réalité d'un rayonnement dans ses composantes littéraires, bien sûr, mais aussi politiques, économiques et même religieuses, il faut s'enquérir des ressorts endogènes et exogènes qui ont contribué à la diffusion planétaire du français, à ses triomphes et à sa malaventure. Pour le Salon du Livre, oui, vraiment, un très beau sujet.
Nous sommes 180 millions de francophones dans le monde. On parle français au Québec, à Rebec, à Flobec, à Tahiti, à Haïti, au Burundi, au Togo, au Congo, à Bamako, à Madagascar, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, à Brazza, en Rwanda, en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, à la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Tunisie, au Liban, dans les Nouvelles-Hébrides, dans l'île de la Désirade, dans l'île de la Marie-Galante, dans l'île Maurice, au Cameroun, en France, à Jérôme-Pont-Petit-Rosière, à Sorine-la-Longue, à Tourine-la-Grosse, à Gendrin-Gendrenouille, on parle français, à Pondichéry, dans les Indes, en Louisiane, à Matagne, dans les Fagnes, les Indiens, algonquins de l'État de New York parlent français et les gros ventres du Montana également. Nous sommes en tout 180 millions de francophones dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'y être wallons.
Bernard Cerchiglini, bonjour.
Bonjour.
Vous avez sûrement reconnu Julose Bocarn, qui est un artiste belge, qui chante en français et en wallon. On a un tout petit morceau de wallon.
Vous avez entendu un peu de wallon tout à l'heure.
À la fin, cette énumération me paraît propre à évoquer d'entrée de jeu dans notre conversation ce que peut être la géographie de la francophonie à travers le monde. Rappeler sa force et rappeler le dessin sur les cartes que l'on peut en faire.
Cette belle énumération par Julius Bocard plaît à l'Olympien que je suis. Et on pourrait ajouter encore des pays et des villes francophones. Et surtout accroître le nombre, parce que maintenant, ce n'est plus 180, mais 250 millions de personnes qui pratiquent le français de façon quotidienne. Donc, pour reprendre la belle expression du président Chirac, je ne suis pas un maniaque du déclin.
Je vois que vous avez reconnu notre pastille, comme nous disons. C'était la voix, en effet, de Jacques Chirac.
Jacques Chirac, tout à l'heure.
Alors, combien sont-ils, ces francophones? Le critère est parfois un peu difficile à définir.
C'est difficile, parce que on peut prendre les locuteurs natifs, on peut prendre ceux qui n'ont pas le français comme langue maternelle, mais qui le pratiquent quotidiennement, on pourrait ajouter les francophiles. Raison gardée, environ 250 millions. C'est beaucoup. Et cela signifie aussi que les Français de France sont minoritaires. Ils ne sont pas possesseurs de la langue française qui appartient à tous ceux qui la parlent et qui la font vivre.
Combien de pays sont-ils dans l'Organisation internationale de la francophonie?
Si l'on prend les pays de plein droit qui sont membres, 54. C'est beaucoup. Et quand on voit arriver au cours d'un sommet 50 chefs d'État qui viennent débattre de problèmes de développement de solidarité en français, on est très impressionné. La francophonie se porte bien.
La dernière fois, c'était à Madagascar.
Madagascar.
Quelques mois, oui. On a trouvé que la presse française n'en rendait pas un compte très, très détaillé. Nous avions quelques soucis. Nous étions un peu trop tournés vers nous-mêmes, peut-être.
C'est peut-être une tendance française. Elle a porté la francophonie sur les fonts baptismaux, mais parfois elle s'en détourne un peu et les sommets sont peu repris dans la presse, malheureusement.
Dans l'échelle des langues parlées autour de la planète, on peut dire que la France, c'est le cinquième langue.
C'est la cinquième langue, c'est la quatrième présence sur Internet et c'est la troisième langue apprise. Car c'est important. Pour un linguiste, une langue est forte de ses locuteurs natifs, de la transmission de la mère à l'enfant. Mais pour le français, il faut ajouter la force des apprenants, de ceux qui ont le désir de français. Et j'ajouterais aux 250 millions de locuteurs, de pratiquants, les 100 millions de personnes qui apprennent le français. Les alliances françaises refusent du monde partout. Il y a un désir de langue française.
Il faut absolument, au cours de cette émission, saluer l'Alliance française qui a maintenant à peu près 140 ans d'âge,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, fondée en 83,
et qui,
bien sûr.
Et qui constitue un maillage
admirable.
Extrêmement positif.
Elle fait partie de ces grandes associations. Il y a eu l'Alliance israélite universelle dans les années 1860 qui a œuvré, la mission laïque française. Et l'Alliance française est un dynamisme incroyable. Elle a un rayonnement, elle a une fonction d'institut culturel, elle représente la culture et la pensée francophone.
Autre observation peut-être nécessaire, Bernard Sacchiglini, à l'orée de cette émission, le français, la France est le seul pays où on ne parle que le français, avec Monaco peut-être.
Alors, on dit que tous les pays francophones sont au moins bilingues, sauf la France et Monaco. J'ajouterais, Jean-Noël, que je ne sais pas si l'on parle encore le monégasque, mais je sais qu'on parle aussi corse, flamand, alsacien en France. Donc, si l'on réfléchit bien, elle n'est pas monolingue, et c'est tant mieux.
Nous allons naturellement revenir loin en arrière, puisque c'est notre vocation. Vous avez publié un livre dont le titre m'a intrigué et peut intriguer, Une langue orpheline. C'est un livre qui est paru il y a quelques années aux éditions de Minuit. Et vous y mettez en lumière ce qui n'est pas très souvent observé, c'est-à-dire que le français demeure au fond un peu chagrin de sa rupture avec le latin. J'aimerais que vous nous expliquiez cela, car cela peut conduire aussi assez loin dans notre réflexion sur la diffusion du français tout autour de la planète. Pendant très longtemps, le latin, au moins en Occident, a été la langue des échanges intellectuels. Et puis, peu à peu, le français s'y est substitué dans une large mesure. J'aurais beaucoup que vous nous expliquiez cela. Et tous mes auditeurs en ont envie.
Oui, écoutez, je crois que si on veut comprendre la francophonie, il faut mesurer l'influence germanique en français. Et le chagrin qui en résulte. Le français est la moins latine des langues néo-romanes, car l'influence germanique était très forte sur tous les plans, phonétiques, lexicales, syntaxe, etc. Et donc, il y a une perte de latinité. Quand on s'en est aperçu, dès la fin du Moyen-Âge, on en a eu un grand chagrin. Le français est beaucoup plus loin du latin que l'italien ou que l'espagnol.
Ou le roumain même.
Que le roumain et le sarde. Et donc, on pourrait dire que depuis la fin du XVe siècle, le français s'est bâti sa propre latinité, d'où sa grandeur. Le français est un de ces personnes, ces personnes, comme dit Rabour, qui s'est donné, qui s'est donné ses propres lettres de noblesse. On a monumentalisé la langue pour compenser la perte de latinité. C'est une langue orpheline, mais qui est devenue noble. Et ces lettres de noblesse, c'est par exemple, en jouant sur les mots, l'orthographe. L'orthographe latinisante retrouve dans l'écrit ce que la parole a perdu. C'est le vocabulaire latinisant, le vocabulaire français est double. L'évolution phonétique a éloigné du latin. Fragilis a donné frêle. Il y avait place pour copier fragile. D'où le double vocabulaire, d'où la syntaxe qui est très latinisante, d'où l'orthographe, d'où toute une série de phénomènes qui font qu'on a bâti sa latinité. Ce qui explique aussi que le français soit une institution. La langue a été bâtie, Académie française, pouvoir de l'État, ainsi de suite. De ce manque, on a compensé le manque en en faisant ce monument admirable qui a donné lieu à cette politique de la langue qui est devenue au plan mondial la francophonie. Au fond, la francophonie a comme père fondateur les farouches guerriers francs qui ont envahi à partir du 5e siècle.
Et cela expliquerait, selon vous, cette rigueur de ceux qui défendent la langue française. Tout à l'heure, dans quelques minutes, je ne devrais pas dire cela au Salon du Livre, puisque je vais perdre certains des nombreux auditeurs qui sont là devant moi. Il va y avoir une dictée, c'est typiquement français, une dictée à 10h30 ailleurs, la dictée pour les nuls. L'attachement à cette rigueur, et c'est vrai que nous souffrons parfois des changements. Je ne devrais pas attaquer le grand quotidien du soir, mais l'autre jour, j'ai vu Chose Trappe avec deux P dans un titre. Mon sang n'a fait qu'un tour.
C'est une des recommandations de la réforme de 91 à laquelle j'ai un petit peu participé, Jean-Noël. Donc, personnellement, j'écris Chose-Trappe avec deux P.
Ah bon? Je croyais vous mettre en difficulté.
Non,
c'est vous qui, en revanche, m'expliquez que je suis à cet égard exclusivement réactionnaire, en tout cas
non,
très conservateur.
pas du tout, mais je crois qu'il faut, de même qu'il faut mettre un deuxième MFA pour souffler, ainsi de suite. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que ce qui explique notre attachement à la norme, à la rigueur, à la langue de l'école, à l'orthographe aussi, ce qui explique aussi la francophonie, car ce qui a uni tant de peuples dans le monde, c'est une langue française tout à fait normée. Un des fondements de la langue française, c'est l'accord de la francophonie, c'est l'accord du participe passé avec le verbe avoir, que tout le monde partage dans le monde.
Grand débat actuel. Puisque vous parlez de francophonie, je crois qu'il ne faut pas tarder davantage pour donner la parole à grand personnage, un grand écrivain africain, sénégalais, qui a joué un rôle majeur dans l'instauration, le développement de la francophonie en tant que telle. Vous avez reconnu Léopold Sédar Senghor. Il s'exprimait là dans Interactualité le 22 septembre 1962 en tant que président de la République du Sénégal, mais aussi agrégé de grammaire, ancien professeur dans nos lycées à Saint-Maur, etc.
Et futur académicien à l'époque.
Alors voilà, Senghor.
Le français, langue de méthode dans sa structure, son mouvement, sa manière d'appréhender les faits, de les situer dans le temps, de les dépouiller de tout superflu, bref, de les rendre concis et accessibles. Méthode qui dit intelligence, finesse et élégance jusque dans les recoins de la rigueur. Sainte-Beuve avait raison de dire qu'il y a des mots qui sont vivants comme des hommes, redoutables comme des conquérants, absolus comme des despotes, impitoyables comme le bourreau. J'ai dit le français, langue de vérité. Ce n'est pas hasard si le discours sur la méthode, la première proclamation des droits de l'homme et le code civil ont été écrits en français. Si la négritude, qui est élan d'amour vers l'autre, a choisi le français pour lancer son message au monde. La clarté est française, a-t-on l'habitude de dire. Dans ce pays qui vous accueille aujourd'hui, clarté signifie vérité. Mieux, des ténèbres de la nuit, l'effort de tous a fait un soleil radieux, lumineux comme la volonté d'un peuple tendu vers le même but, soutenu par la même foi.
Léopold Sédar Senghor, septembre 1962. Vous me rejoignez quand je dis que c'est un acteur majeur de la francophonie ?
majeur. Non seulement c'est lui qui a porté le projet francophone dans les années 60, mais, par exemple, c'est peu connu, tout a commencé par l'Union culturelle française en 1955, qui a tenu son premier congrès, c'est une association à Versailles, en 55, et le gouvernement à l'époque était représenté par un sous-secrétaire d'État auprès du Premier ministre, qui s'appelait Léopold Sédar Senghor. Donc il est là dès le début, dès les prémices de la francophonie.
Oui, c'est un des, avec Houphouët Boigny, c'est un des deux africains.
Et Amadi Diori.
C'est des trois qui ont été ministres de la République, la quatrième.
Ils ont été ministres et ils ont porté le projet. En 1966, Diori propose au général de Gaulle une organisation internationale fondée sur la langue française, et de Gaulle reste très prudent. Il a peur d'être taxé de néocolonialisme et il refuse. Et Senghor m'a raconté comment il élu président du Sénégal, il va voir le général de Gaulle et il lui dit « Monsieur le Président, nos pays doivent collaborer ». Et de Gaulle lui répond « Mais sur quelle base ?» Et Senghor répond « Mais sur la base de la langue française ».
Et de Gaulle parlait rarement de la francophonie. On a relevé un ou deux cas. C'était pas un mot qui faisait partie ni de sa réflexion ni de son expression.
Non, on dit qu'il était très prudent. Mais tout à l'heure, je ferai une révélation pour nuancer cette chose. De Gaulle a été officiellement très prudent.
Vous faites de la radio depuis longtemps, c'est pour ça que vous savez garder nos auditeurs en faisant de l'annonce. Il est vrai qu'à TV5 Monde, vous avez déjà donné un millier de chroniques sur la langue française.
Merci.
Ce n'est pas très courtois. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Non, je n'ai pas dit ça, personne ne m'a entendu.
Mais voyez, pour revenir à Senghor, ce qu'on vient d'entendre est admirable. C'est la grandeur et l'équivoque de la francophonie. La grandeur parce qu'il parle une langue magnifique. Son élocution est parfaite. Vous avez entendu ses consonnes et ses voyelles. Bien. Mais, d'une part, quand il évoque la négritude, on a envie de demander où est la négritude de sa langue. Il n'y a pas un terme francophone sénégalais dans ce qu'il dit. Il n'y a pas du tout de couleur locale de sa langue.
C'était le sérère, sauf erreur.
C'est le sérère, bien sûr. Or, il parle la langue académique, en quelque sorte. Donc c'est la grandeur, puisque nous partageons cette langue. Mais l'équivoque, c'est qu'il parle de rivarol. C'est du rivarolisme pur. La clarté française, la langue de la vérité, des choses qu'on ne peut pas accepter.
Ce qui n'est pas clair n'est pas français.
Ce qui n'est pas clair n'est pas français. La syntaxe française est incorruptible, ou même le français est la langue humaine elle-même.
C'est son fameux discours sur l'universalité de la langue française, Rivarol.
Oui, c'est le prix de l'Académie de Prusse, et les Français sont fiers que l'un d'entre eux ait gagné un prix de l'Académie de Prusse. Mais tout cela est faux, puisque...
Je n'aime pas Rivarol. Je vous en donne l'occasion de le dire.
Tout est faux chez Rivarol,
puisque vous voulez parler latin.
Ouais, exactement. Tout est faux chez Rivarol, à commencer par sa particule. L'Académie de Prusse avait été fondée par Frédéric, par des Français. Le premier président est Maupertuis, sont des Français qui proposent comme concours pourquoi le français est-il universel, et c'est un Français qui gagne le prix. Tout ça quand même est un peu facile, mais il a dû le partager, parce qu'on a dû reconnaître que Schwartz, un Allemand, avait fait une très belle dissertation, il a partagé le prix. Et que dit Schwartz? Le contraire de Rivarol. Si le français est universel, c'est parce que Louis XV a gagné des batailles, parce que les écrivains sont brillants, parce que l'encyclopédie, etc. Et non pas, comme dit Rivarol, pour des raisons essentielles. Le français n'est pas plus clair qu'une autre langue. Le français n'est pas plus incorruptible. Le français est une langue que l'on utilise dans des buts parfois de clarté ou dans des buts de solidarité, de fraternité, ce qui est notre utilisation.
Est-ce qu'il y a un lien entre cette position de Rivarol et le fait que quelques années plus tard, il a été un farouche opposant à la Révolution et à ses acteurs? Est-ce qu'on peut se permettre, oui on peut, puisque c'est moi qui ai le micro, rappeler ce mot fameux sur Mirabeau: ce grand homme a senti de bonne heure que la moindre vertu pouvait l'arrêter sur le chemin de la gloire, et jusqu'à ce jour, il ne s'en est donc permis aucune. C'est un grand talent en même temps.
Très jolie plume. Son essai est brillant, superficiel, c'est tout ce qu'on peut aimer et aussi un peu détester dans l'esprit français. Quand j'aurai publié mon pamphlet contre Rivarol, si peut-être que vous m'inviterez pour en parler.
Hein, je vois le désir que vous en avez. Nous verrons si cette émission se passe bien. Je voudrais que nous revenions, Bernard Cerchilini, que nous revenions en arrière sur ces moments décisifs où la langue française a émergé à la fois à l'intérieur de nous-mêmes et comme vecteur d'une culture en Europe et ailleurs. Quels sont les ressorts? Comment expliquer ça rétrospectivement si on remonte au XVIe siècle? Peut-être il faut dire un mot d'abord de Villers-Cotterêts.
Oui, en fait, il y a dans la langue française une nature politique, elle crée du lien social depuis toujours, elle est depuis toujours soutenue par l'État, c'est Villers-Cotterêts, et depuis toujours elle rayonne par le glaive dès les croisades. Si le français devient lingua franca méditerranée, c'est parce que les chevaliers de la croisade sont français, et même Picard, ou par la plume. Rappelez-vous, dès le XIIIe siècle, Brunet latin écrit en français, car c'est une langue « mut delitable », dit-il. Donc il y a dans le français, certains ont dit un messianisme, je dirais une tendance au rayonnement. Un peu plus tôt, je rappelais que la langue française est forte de ses apprenants. Il y a un rayonnement depuis toujours. Et qui tient, vous parliez de Villers-Cotterêts, qui tient au soutien de l'État.
Rappelons ce que c'est que Villers-Cotterêts, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, 15 août 1539.
Signée à Villers-Cotterêts, lieu qui a vu la naissance d'Alexandre Dumas aussi, dans une petite chambre du château, c'est une ordonnance qui établit une justice en français et non pas en latin. L'ordonnance est très longue et elle a deux articles, 110 et 111, qui parlent de la langue.
Je les lis.
S'il vous plaît.
Je les lis.
Ils sont très beaux.
Oui, ils stipulent que, afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arrêts, arrêts de justice, nous voulons et ordonnons, c'est donc François Ier qui parle, qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait, ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation. Et l'article 111, pour que de telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins, parce que de telles choses, sur l'intelligence des mots latins, donc
la compréhension,
flou, oui. Compréhension, nous voulons dorénavant que enquête, contrat, commission, sentence, testament et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français, pas paternel, maternel français, et non autrement. Ça n'a pas empêché que les gens de justice se sont souvent à nouveau déguisés dans un français qui leur était propre, voire Molière.
Bien sûr. Une remarque sur entendement et intelligence. Le fil rouge de la politique linguistique française, c'est la compréhension. Dans ce texte, Guillaume Poyet, l'auteur du texte, pense, et à juste titre, qu'il ne peut pas y avoir d'acte juridique s'il n'est pas compris. Mais en général, il faut qu'il y ait une compréhension de l'action du gouvernement. C'est une idée qu'on va retrouver chez Grégoire, dans le texte de Grégoire.
L'abbé Grégoire,
et jusqu'à la loi Toubon, qui considère que dans le commerce, il faut que le français soit présent parce qu'on comprend un mode d'emploi en français en France. C'est le fil rouge de l'intelligence. Mais comprendre, ça veut dire parler dans la langue natale. Et regardez la formule finale. En langage maternel français.
Pourquoi maternel et pas paternel?
Alors, parce que c'est le latin, le langage paternel, ça c'est sûr. Mais depuis le 19e siècle, on a une lecture un peu jacobine de cette ordonnance, et l'on traduit français. Je crois qu'il faut traduire langue natale, native, et ça signifie que l'ordonnance de Villers-Cotterêts acceptait des textes en occitan en particulier. Et de fait, l'Assemblée de Toulouse a continué à publier des textes en occitan pendant quelques années. Donc il faut un peu nuancer. Si l'on veut une compréhension profonde, il faut accepter à l'époque des langues dites régionales.
J'ai devant moi l'ancien délégué à la langue française et
aux langues de France. On ne se refait pas. Et j'ajoute, cher Jean-Noël,
que
ces deux articles 110 et 111 sont les plus anciens textes juridiques en vigueur en France. Ils n'ont jamais été abrogés. Il y a une vingtaine d'années, le Conseil d'État les a visés encore dans un décret. C'est assez émouvant.
Nous devons observer, à ce point de notre conversation, Bernard Cerchiglini, que tout en diffusant son rayonnement, vous allez peut-être nous rappeler ce qui s'est passé au XVIIe et au XVIIIe siècle. Dès ce moment-là, la France, le français s'enrichit évidemment d'une quantité de mots étrangers. C'est un point auquel vous êtes très attaché. Vous venez d'ailleurs de publier un, un très beau livre qui est consacré à une défense et illustration du parler francophone, c'est-à-dire nécessité, besoin, l'utilité d'aller chercher dans l'ensemble de ce qu'on appelle désormais la francophonie, d'aller chercher une richesse langagière propre à nous être précieux. C'est ce que dit d'ailleurs à peu près cette chanson que je vais vous faire entendre, cette chanson de Michel Bernard de 1999 qui s'appelle « Qui a volé les mots ?» C'est nous qui les avons volés.
Qui a volé les mots? Qui a volé les mots? Encore ces Français, quel culot, volé les mots! Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche? Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète, hein, vraiment ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Voler au grec, au latin, au gaulois.
Ça va de soi, ça va de soi.
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens.
C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin.
Oui, mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Polynésiens. Piqué paréo et tabou, au Tuamotu. Chez les Chinois, le mot typhon soufflé pour de bon. Banane et macaque en Afrique, tu parles d'un trafic. Le rafia chippé au malgache à coups de cravache. Même aux Arabes, c'est le bouquet. T'imagines pas ce qu'ils ont piqué. Le barda, le safari, le café, le nénuphar. La guitoune et le satin, la valise et le hasard. Le magasin, le cramoisi, le charabia et l'alchimie. Le sirop, le sofa, le souk et la nouba. Voler aux grecs, aux latins, aux gaulois.
Ça va de soi, ça va de soi.
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens.
C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin.
Oui, mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Amérindiens. La tomate et la cacahuète, on est des Aztèques. Le toboggan, le mocassin chez les Algonquins. Voler aussi les Bengalis, plus de pyjama. Et puis leur joli paradis, nommé Nirvana. Et même aux Turcs, c'est le bouquet. Tu devines pas ce qu'ils ont piqué. La turquoise et le turban, le cosaque et le derviche. La bergamote et le divan, le caviar pour les riches. Le talisman, le cimetière, la percale et le janissaire. Le pacha, le lascar, sarabande et bazar. Au voleur, au voleur, au voleur. Qui a volé les mots? Qui a volé les mots? Encore ces Français, quel culot, volé les mots. Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches. De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche? Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah vraiment, ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Ah vraiment, ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets.
Les pickpockets, Bernard Cerchilini, est-ce que nous sommes des pickpockets dans le domaine langagier? Est-ce que vous rejoignez Michel Bernard? Je crois que vous le ferez, vous venez de m'avouer en hors antenne, que, enfin me dire, pourquoi avouer, me dire que vous étiez né la même année, au même endroit. Vous la connaissiez, cette chanson?
Non,
oui,
non,
il était temps.
C'est une très jolie chanson, c'est une chanson pour un linguiste. Le français a emprunté, ce qui est tout à fait naturel, à plus de 80 langues. Il a emprunté beaucoup à l'anglais depuis les années 50, ensuite à l'italien, et après à l'arabe, énormément de mots. D'ailleurs, Jean Pruvot vient de publier un très beau livre sur les emprunts à l'arabe de la langue française. Mais à l'inverse, le français a donné énormément de mots aux autres langues, à commencer par l'anglais, dont 40% du vocabulaire est d'origine française. Clémenceau disait « L'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé. »
D'ailleurs, Clémenceau, il fallait qu'il passe ça dans notre conversation, parce que je peux signaler au public que vous êtes un clémenciste averti, donc vous ne pouvez pas être entièrement mauvais.
Je suis votre élève dans ce domaine.
revenons à la langue, encore que Clémenceau l'ait pratiqué, évidemment, admirablement, et était un des rares personnages du personnel politique de l'époque qui ait parlé également très bien l'anglais. Mais ce 18e siècle, revenons au 18e siècle, comment analyser, préciser et expliquer l'expansion du français tout autour de l'Europe. D'ailleurs, vous rappelez dans plusieurs de vos écrits que le français pourrait être aujourd'hui parlé aux États-Unis d'Amérique, puisqu'il s'en est fallu d'une voix pour que la jeune République prît le français comme langue.
Oui, et puis d'une part, on a hésité longtemps, et aussi la plus grosse sottise faite par Napoléon, vendre la Louisiane, c'est-à-dire non pas seulement la Louisiane, mais tout le centre des États-Unis. C'est-à-dire que grâce à cette vente, les États-Unis ont doublé leur superficie. Et surtout, ils se sont ouverts vers l'intérieur. Jusqu'alors, les États-Unis, c'était une bande côtière qui regardait l'Atlantique. Après l'achat, ils ont regardé le Midwest, et de proche en proche, ils sont allés jusqu'à la Californie. C'est une faute stratégique monumentale de Napoléon.
Donc sans Napoléon, Trump gazouillerait en français, c'est ça que vous nous dites ?
Oui, bon, nous pouvons le dire.
Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu éviter cela, sans entrer dans le détail de cet épisode ?
Non. C'est une concordance des temps. Il faut voir aussi pourquoi Napoléon a vendu la Louisiane que nous venions juste d'avoir en héritage, en quelque sorte, des Espagnols. Il était très occupé par la préparation de l'expédition russe. Et surtout, Napoléon avait une pensée européenne et non pas mondiale. Or, le français était déjà une langue mondiale. Il faut voir qu'au XVIIIe siècle, au début du XIXe, il est parlé un peu partout. Et pas seulement pour des raisons coloniales. D'implantation, pour des raisons de rayonnement, je l'ai dit, le français doit à ceux qui sont installés au Québec, en Louisiane, un peu partout, et aux Antilles, plus tard en Afrique, mais il doit aussi aux écrivains. Marc Fumaroli disait l'Europe, mais l'Europe cultivée, parlait français à l'époque. Et le rayonnement de l'encyclopédie a fait beaucoup pour le français dans sa diffusion, mais aussi dans son expansion, car le XVIIIe siècle est une époque d'expansion du vocabulaire, on le voit par l'encyclopédie. Le français devient une grande langue moderne qui dit la science et la technique.
Dans beaucoup de pays d'Europe centrale en particulier, ou d'Europe orientale, on ne peut pas évoquer, comme nous le faisons ce matin, Bernard Cerchiglini, la diffusion du français dans le monde, sans citer le fait que leurs souverains, les souverains de Prusse ou de Russie, Frédéric ou Catherine, parlaient en fait français au quotidien et laissaient leur langue vernaculaire, leur cocher.
C'est-à-dire, oui, la langue de la bonne société, la langue de l'écriture, était le français. Donc, on a une expansion, mais surtout, ce qui est curieux, c'est que commence aussi, pour reprendre la phrase de Jacques Chirac tout à l'heure, commence l'idée du déclin. Le paradoxe du XVIIIe siècle, c'est que le français n'a jamais été aussi conquérant à l'intérieur et à l'extérieur, mais on considère qu'il a atteint son sommet avec Racine, avec La Fontaine. Et quelqu'un comme Voltaire, par exemple, a déjà l'idée que nous sommes sur la pente et qu'il faut freiner la descente et qu'il faut maintenir et corriger cette langue. L'idée du déclin, elle commence dès le XVIIIe siècle, à l'époque d'expansion. Il faut rappeler ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Le français n'a jamais été autant parlé, il est dynamique et on entend le discours du déclin. Tous les jours, nous lisons des articles disant que le français est perdu.
C'est comme dans Belle de jour, le film de René Clair, où de génération en génération, les vieillards disent que c'était mieux avant. J'ai l'impression que les déclinologues sont aussi anciens que la civilisation elle-même.
C'est vrai, mais on en a un bel exemple pour la langue française depuis au moins le XVIIIe siècle.
Et Chirac protestait contre ce... Il avait raison. Contre ce point de vue. La naissance du mot de francophonie, ça ne remonte pas jusqu'à l'abbé Grégoire, c'est plus tard. Mais arrêtons-nous un instant l'abbé Grégoire, si vous voulez bien, parce que ce moment est très important.
Ce moment est crucial, parce que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne porte que sur la justice. Avec Grégoire, on met en place, et ensuite la loi du Determineur, on met en place l'idée d'une langue de l'État, de l'administration en général. Et ce que fait Grégoire, qui est, il faut le reconnaître, honni par les défenseurs des langues régionales, car son rapport s'appelle « La nécessité d'anéantir les patois ». Ce que fait Grégoire, c'est de donner à la France, au peuple, une langue unique. Le reproche léger qu'on peut lui faire, c'est de la considérer comme exclusive. Mais il faut comprendre, Grégoire, quelqu'un qui a donné un statut de citoyen aux Juifs, qui était membre de la Société des Amis des Nègres, qui a défini le patrimoine et qui l'a préservé, ne pouvait pas être mauvais. Pour lui, malheureusement, les langues régionales, les patois, et il parlait le patois vosgien, étaient synonymes de d'arriération, de superstition. On le voit par son enquête.
Ce n'est pas le seul motif pour lui rendre justice. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous l'avons mis au Panthéon en 1989.
Grâce à vous, d'ailleurs.
Bien sûr. Il faut rappeler, à propos de Grégoire, qu'il y avait un argument très important, c'est qu'il disait que si on maintenait les langues régionales, seule l'élite, seule l'aristocratie parlerait français et pourrait continuer de ce fait, dans ce champ, à dominer les autres. C'était une façon de marcher vers la démocratie.
Exactement. Et pour lui, les langues régionales étaient liées au féodalisme, c'est-à-dire à l'autorité éclatée en petits seigneurs qui allaient communiquer dans une langue de l'élite, le français. Il faut donner le français à tout le monde. Et le rapport de Grégoire est un très très beau rapport sur la langue française. Il propose d'ailleurs de la néologie, il propose même de moderniser l'orthographe. Quand nous avons en 91...
Ça vous convient, Bernard Cerchellini. Oui. Vous qui nous chamboulez nos mots et qui voulez mettre un accent grave à événement au deuxième...
Je n'étais pas le seul. Mais quand nous avons fait cette petite réforme, mon ami Pierre Encrevet a proposé le terme de rectification. Il a trouvé le terme chez Grégoire.
Oui, il faut saluer Pierre Encrevet qui est à vos côtés, un grand linguiste contemporain, effectivement.
Et à qui nous devons une grande partie de la politique linguistique française depuis 20 ans.
L'abbé Grégoire s'attache aussi au rayonnement de la langue française hors de ce que nous appelons aujourd'hui notre hexagone.
Bien sûr, et Grégoire est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la question de l'esclavage. Il a rapporté la loi qui a aboli l'esclavage. Il s'occupe d'une langue française mondiale. Et aussi, c'est peu connu, c'est lui qui a rapporté la loi qui a aboli l'Académie française.
Jetons un voile sur ce moment tragique. Et avançons vers...
Comme vestige de la féodalité.
Et avançons vers notre francophonie. Qui a vraiment installé et inventé le mot de francophonie?
Nous parlions du républicanisme de Grégoire. C'est un autre républicain, et un républicain vraiment de gauche, Onésime Reclus, le frère d'Élisée. Élisée était anarchiste, Onésime, lui, il est républicain de gauche, il est même communard et il va s'exiler. Mais... comme beaucoup de républicains de cette époque, il est en faveur de la colonisation, comme tous, sauf notre ami Clémenceau. Et Onésime Reclus fait partie de ces républicains qui, pour lutter contre la Prusse de Bismarck, pour compenser la perte de l'Alsace-Lorraine, développe l'idée coloniale. Mais une idée coloniale au sens de la civilisation, et vous savez que Clémenceau disait, mais pourquoi leur apporter la civilisation? Ils l'ont déjà. Mais d'une civilisation, d'une idée quasi romaine, Reclus dit, nous devons être la nouvelle Rome. Nous allons bâtir des routes, des hôpitaux et apporter une langue, le français. Et il crée la francophonie, une union rêvée de tous ceux qui parlent la langue française.
Et il préférait l'Afrique à l'Asie.
Il est l'auteur d'un texte étonnant, je vous cite le titre, Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique, prenons l'Afrique. Et c'est dans un livre sur l'Algérie qu'il invente le mot francophonie. On voit donc la naissance coloniale, mais coloniale républicaine, au sens de l'influence, du soft power, dirait les Américains, de la francophonie. Simplement, le terme va être repris beaucoup plus tard par des Africains eux-mêmes, libérés, indépendants, et qui veulent fonder un projet de solidarité.
Il y a l'Asie, il y a l'Afrique, et puis il y a naturellement le Canada, le Québec. Écoutez cette interview de Jean-Marc Léger sur la création de l'Union culturelle française. Nous sommes au début de l'organisation de la francophonie. Nous sommes le 1er janvier 1955, et vous nous avez annoncé une révélation sur Jean-Marc Léger. Nous attendons avec impatience.
L'un des traits caractéristiques de cette Union culturelle française et qu'elle n'a pas été fondée justement par des Français, mais par nos amis du Canada français, qui voulaient maintenir très ferme le prestige de la langue et le prestige de la civilisation française. Nous avons tout d'abord à notre micro Jean-Marc Léger, avocat et journaliste à Montréal, qui va nous dire pourquoi et comment cette union culturelle a été fondée dans son pays.
Les 60 000 Canadiens français laissés par la France en 1760 sur les rives du Saint-Laurent sont devenus en moins de deux siècles plus de 6,5 millions, dont 2 millions environ vivent aux États-Unis où ils forment le groupe de ce qu'on appelle les franco-américains. Il nous faut absolument et d'urgence opérer une vaste et féconde synthèse des valeurs françaises qui sont en nous, que nous voulons conserver nôtres. En somme, au lieu du traditionnalisme d'antan qui consistait à conserver simplement, nous voulons maintenant que le fait français chez nous soit pas uniquement le fait de 3 ou 4 millions de personnes qui entendent rester fidèles à l'héritage des générations de jadis, mais que, le fait français soit pour chez nous un élément vraiment vivant de fécondité pour le Canada tout entier grâce aux Canadiens français.
Il y a des pays où la situation de la langue française est absolument florissante. Voici ce que disait à ce congrès le délégué de l'île Maurice.
L'avenir de la France, chez nous, reste clair. En effet, le français est non seulement la langue courante, mais il est aussi la seule langue vraiment commune de ce creuset de races qu'est l'île Maurice. Car le patois mauricien est essentiellement composé de français. Le français, il est vrai, a la prononciation torturée, mais il a quand même la saveur des vieux patois de France et comprend nombre de termes nautiques importés par ces hardis marins et corsaires venus comme un vol de Gerfaux, de Brest, de Nantes et de Saint-Malo planter le parler de la France sous le grand désordre clair du ciel tropical.
Nous avons reconnu et salué José María de Heredia comme un vol de Gerfaux hors du charnier natal, etc., cité par le représentant de l'île Maurice. Et dans un tout autre ordre, nous avons également reconnu la voix de Léon Zitrone, qui n'est pas oublié, qui était ensuite un personnage majeur de la télévision française. Bernard Cerchiglini, ce Jean-Marc Léger, vous l'avez connu ?
Oui. Oui, et c'est très émouvant d'entendre sa voix entre celle de Zitrone et peut-être d'ailleurs c'est d'Edouard Monique, je crois, l'homme de les Maurice qui citait Heredia. C'est un grand poète.
Merci pour cette note en bas de page.
J'ai beaucoup d'estime, d'admiration pour Jean-Marc Léger, à qui l'on doit beaucoup de choses en francophonie. Vous savez, tout est parti des Africains, on les a cités, mais avec l'aide des Québécois. Et Jean-Marc Léger est quelqu'un qui a découvert la francophonie pratiquement en étant étudiant à Paris. Il vivait à la Cité internationale et il a rencontré des Vietnamiens, des Algériens, des Africains qui défendaient l'indépendance de leur pays en français. Et il s'est dit, mais je vais faire pareil, car lui était indépendantiste et souverainiste. Donc on lui doit à peu près tout, la fondation de l'Association des universités partiellement et entièrement de langue française. C'est lui qui l'a fondée en 1961, devenue l'AUF, le père fondateur de l'agence universitaire.
Monsieur le recteur, vous l'avez dirigé.
Et oui, donc c'est pour ça que je l'ai rencontré très souvent, Jean-Marc Léger, pour le saluer. Et on lui doit aussi, en 70, l'Agence pour la coopération culturelle et technique, qui est la première agence diplomatique, officielle, politique, montée pour préparer les sommets, pour faire de la politique. Et on dit d'habitude que les Français n'étaient pas derrière. Je viens de citer les Africains, l'île Maurice, Québécois. Mais la dernière fois que j'ai vu Jean-Marc Léger, il me dit, nous parlions de cette agence créée le 20 mars 1970. Et il me dit, mais tout de même, les Français m'ont beaucoup aidé.
En quoi ?
Alors, je lui dis, ah bon ? Il me dit, oui, d'abord, ils m'ont demandé de prendre un congé d'un an au journal de Le Devoir de Montréal. Ils m'ont offert un salaire, même un salaire très agréable. Ils m'ont offert un bureau à Paris avec un secrétariat. Et réflexe de Parisien, je lui ai dit, mais où ? Il me répond, rue de Lille. Or, la rue de Lille, dans les années 60, on pense officine gaulliste, bien sûr. Et Jean-Marc Léger ajoute, d'ailleurs un Français m'a beaucoup aidé. Il a pris tous les rendez-vous avec les chefs d'État africains, il m'a accompagné, il a été un truchement très efficace, je lui dois beaucoup, c'est vraiment lui qui a créé l'agence. Ah, j'ai oublié son nom, il cherche. Et puis soudain il le trouve, et il me dit, mais ça ne vous dit rien. J'ai dit, Jean-Marc, dites toujours. Il m'a dit, il s'appelait Focard. Je vous devais cette révélation et aux auditeurs de France Culture. Focard est aussi un des pères de la francophonie.
Nous goûtons cette révélation pour ce qu'elle vaut, bien sûr, Bernard Cerchiglini.
Donc les Français étaient tout de même un peu à la manœuvre et on les comprend. La France finance beaucoup la francophonie, elle en accueille le siège de l'OIF. Les gaullistes ne pouvaient pas laisser les choses se faire sans eux, tout de même.
Les secrétaires généraux ont toujours été, n'ont jamais été français. Ça a été Boutros Ghali, d'abord.
Abdou
Diouf, l'ancien président du Sénégal, et Michael Jean, qui a été gouverneur du Canada.
Bien sûr, qui est une très dynamique secrétaire générale. Je voulais dire simplement que les services français étaient dans la coulisse et actifs, on peut les comprendre.
Je voudrais que nous terminions cette conversation. Il nous reste un quart d'heure, Bernard Cerchiglini. Je voudrais que nous le terminions en réfléchissant à ce que c'est que la littérature francophone. Au fond, d'abord, c'est un peu étrange, parce que la littérature dite française est aussi francophone. Mais l'usage s'est installé de parler de littérature francophone à propos des gens de lettres, des auteurs qui parlent français, qui écrivent français, et qui ne sont pas français, proprement parlé. C'est étrange, non ?
C'est très étrange et désagréable. Il y a la littérature française. Dans les librairies, on voit des rayons différents, littérature fabriquée en France.
Et au Salon du Livre, où nous sommes aussi.
Aussi. Et puis, la littérature de même qualité, de même dignité, écrite par des Belges, des Sénégalais. On appelle littérature francophone. Je crois qu'un jour, il faudrait dire la littérature de langue française. Sonny Laboutancy et Jean Echenoz sont des écrivains de langue française. Point.
Alors, je vais vous faire entendre deux archives pour finir. Deux écrivains qui ont des positions antagonistes par rapport à la francophonie. Le premier, refusant d'y attacher vraiment de l'importance, c'est son instrument, mais son rayonnement, sa défense contre l'anglais ne le préoccupe pas. Le second, au contraire, a une position tout à fait inverse. Le second, ce sera René de Pestre, le grand écrivain que vous avez connu. Et le premier, c'est Boubacar Boris Diop, qui est un auteur majeur sénégalais, qui s'entretient ici avec Catherine Pont-Imbert dans Avoué nu, le 26 février 1999, sur France Culture.
La francophonie pose problème. Elle concerne un ensemble qui paraît homogène. Tout le monde utilise la langue française. Mais dans cet ensemble, le rapport à la langue française est extrêmement différent selon qu'on est québécois, belge, gabonais ou sénégalais. L'écrivain belge qui utilise le français, d'une certaine façon, il utilise dans son écriture la langue qu'il pratique au quotidien. C'est le cas du Québécois, avec toutes les variantes que l'on connaît dans la langue québécoise par rapport au français d'origine. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous avons une langue de travail, une langue qui nous isole du reste de la communauté et qui, même quelque part, nous isole de nous-mêmes. Puisque cette langue, qui est celle dans laquelle nous écrivons nos livres, nous ne la pratiquons jamais. J'utilise le français parce que c'est cette langue qui me permet de m'exprimer. Cela n'a rien à voir avec l'idée, que le rayonnement de la langue française doit être préservé. Il faut faire en sorte que l'anglais n'envahisse pas le monde. Moi, je n'en ai strictement rien à faire. Une dernière chose. Le constat que l'on fait, c'est que, au fond, ce qui intéresse les Français, c'est pas d'être francophone, c'est d'être français. Et d'une certaine manière, mais c'est presque comique. La condition pour être un écrivain francophone, c'est d'abord de ne pas être français. Mais de qui se moque-t-on ? Vous voyez, je ne sais pas, quelqu'un inviter le Clésio et dire, aujourd'hui nous recevons un écrivain francophone, ça veut rien dire. En plus, c'est une langue que l'on écrit mais qu'on ne parle pas. Quelqu'un, je crois, un grammairien belge l'a déjà fait remarquer. Il a dit, arrêtons de parler de francophonie, parlons de francographie. Dans tous ces pays-là, personne ne parle le français. On l'écrit dans les bureaux et dans les romans, ça s'arrête là.
Voilà qui est assez vigoureux, Bernard Cerchiglini. Je rappelle que Boubacar Boris Diop est un écrivain intellectuel sénégalais considérable qui a reçu notamment 2000 Grands Prix littéraires d'Afrique noire pour l'ensemble de son œuvre.
Oui, sa position peut se comprendre. Il vit le bilinguisme comme une diglossie, c'est-à-dire comme une distinction conflictuelle entre deux langues. La langue quotidienne, le Wolof, qui est une admirable langue africaine, et qui est la langue de tous les jours, et puis le français, langue de l'écriture, de l'école, du savoir. Et un des grands enjeux de la francophonie, c'est de résoudre ce problème, qu'il n'y ait pas de diglossie, mais que cela s'articule. Et en particulier, une solution, c'est une école paternelle ou primaire qui commencerait en Wolof et qui passerait au français ensuite, pour que chacun soit bien dans ces deux langues et puisse les articuler. Sinon, il peut y avoir conflit, et je comprends quand Boubacar Diop dit « le rayonnement du français par rapport à l'anglais, ce n'est pas mon problème du tout. Son problème, c'est écrire, s'exprimer, développer son pays.
Eh bien, nous allons voir que René de Pestre a une position très différente. De Pestre, c'est ce grand écrivain d'origine haïtienne, ce poète majeur qui a dû souvent quitter son pays, qui a été en exil en Amérique latine, à Cuba, et qui a ensuite vécu dans notre Aude, Lusignan, dans le sud de...
Dans les Corbières, il habite.
Dans les Corbières, ouais. Et qui s'exprime de la sorte dans une émission également de France Culture, le 6 août 1982, dans l'émission de la Communauté des radios publiques de langue française, la chaire CRPLF.
Si la langue, c'est la terre natale, c'est-à-dire l'origine de nos racines, si la langue, c'est la parole de la mère, c'est-à-dire la femme qui a modelé nos mots et nos gestes premiers, si la langue peut être également la mère, c'est-à-dire la respiration du monde à nos oreilles, ma langue maternelle, c'est indiscutablement le créole, l'haïtien. Avec le créole, nous avons eu des rapports naturels, organiques, magiques, sensuels et ludiques. Le créole nous a ouvert les yeux sur les arbres, les étoiles, les animaux, les papillons, les cailloux, sur nos semblables et sur notre cosmos intérieur. Le créole nous a donné la saveur du premier baiser et l'ivresse des fruits qui font encore croire au paradis. Dans ces conditions, quelle place occupe le français dans notre vie? Que signifie la présence d'un haïtien dans un congrès mondial de promoteurs professionnels du français? Suis-je en train de me perdre à jamais dans un espace linguistique et culturel qui n'est pas le mien? Ces questions peuvent être vécues comme un conflit. Le poète haïtien Léon Lalo a bien exprimé la nature et l'ampleur de ce conflit. Ce cœur obsédant qui ne correspond pas à mon langage ou à mes costumes et sur lequel mordent comme un crampon des sentiments d'emprunt et des coutumes d'Europe. Sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Ce poème s'appelle « Trahison ». Serait-ce de ma part une trahison à vouloir faire un usage maternel du français, à tenter chaque jour avec plus de passion d'intégrer les mots de France aux racines de mon identité d'haïtien? Sincèrement, je ne pense pas avoir trahi le créole de mes soirées de Jacques Mel, ma ville natale, en étant un poète d'expression française. Je n'ai pas déménagé du créole au français, des mots d'Haïti aux mots de France, comme on quitte sa maison natale pour une fois de chambre de bonne sous les combles de Paris, ou comme on saute des bras de sa mère à ceux d'une marâtre, ou encore comme on fuit l'intimité tutélaire d'une épouse pour le mystère tout neuf d'une femme jardin.
Nous saluerons, j'imagine, les images, pour exprimer la pensée de René de Pestre. En l'écoutant, et après l'autre témoignage, je me disais qu'il y a une grande différence, c'est qu'au fond, de Pestre, c'est l'homme du créole, c'est-à-dire une langue qui découle du français, alors que Diop, bien sûr, a dû s'arracher à sa langue natale, Wolof, opposition majeure, non?
Bien sûr, Diop a le sentiment d'avoir trahi le Wolof. De Pestre ne trahit pas le créole à base française, dans la mesure où il créolise la langue française quand il écrit. Et c'est ça qui est très très beau dans la langue de Pestre, comme dans la langue de Sonny Labutansi ou autre, on a des Français qui prennent des couleurs et qui sont travaillés par les autres langues. Ce n'est pas de la diglossie, c'est une sorte de synergie entre langues. Et ça fait un très grand poète, un très grand écrivain.
Est-ce que nous pourrions conclure sur une réflexion quant à la nécessité à la fois d'être optimiste sur le rayonnement de la France contre les esprits chagrins et néanmoins peut-être l'idée qu'il ne faut pas rester passif pour autant et que nous sommes tous comptables du rayonnement planétaire de notre français?
En effet, il ne faut pas être décliniste, mais...
Ça, on l'aura compris.
On l'a compris. Mais il faut être courageux. Et dire que nous parlons et défendons une langue mondiale qui a sa place dans le commerce des grandes langues internationales et ne pas baisser les bras. Je trouve que les Français font les yeux doux à la langue anglaise internationale. C'est une très belle langue, mais la nôtre ne l'est pas moins. Il faut donc défendre le français, aider à sa promotion, aider à la production de terminologie. C'est important, le français ne doit pouvoir dire le monde moderne, comme il l'a dit au XVIIIe siècle, il ne faut pas laisser à l'anglais le privilège de la modernité. Il faut donc, comme depuis le XVIe siècle, une politique linguistique de soutien à la langue, terminologie, féminisation des titres. Pourquoi laisser dans la langue de la misogynie ? Rectification orthographique, l'orthographe doit se moderniser. Et puis, ouverture à la diversité. Vous avez bien voulu citer mon modeste ouvrage. Il faut aussi adopter des termes québécois, sénégalais, congolais, car ils sont souvent très bons, très clairs, très efficaces. Il faut parler le francophone.
En somme, il faut à la fois, chez nous, lutter contre une sorte de passivité, de vichisme à l'égard des mots étrangers.
Je suis content de t'entendre dire ça.
Et d'autre part, du coup, vous me tutoyez, je suis très touché. Et d'autre part, évidemment, surtout peut-être avoir une politique offensive à l'extérieur. Mais je ne néglige pas la défense nécessaire contre cette sorte de facilité qui consiste à importer des mots anglais. Agora Line, Smiles, pourquoi ? Et pourquoi mettre sur nos timbres poste Tex Avery plutôt qu'avec la girl ? En fait, tout ça est assez lamentable.
C'est lamentable, ridicule, ne sert absolument à rien, à un petit côté collabo, vous l'avez dit, Jean-Noël, d'effet de mode. On se demande ce qui est le plus regrettable, la mode, le snobisme, la veulerie et l'abandon de notre langue. Nous aimons toutes les langues, mais nous aimons la nôtre et nous la défendons.
Et
les emprunts
sont
parfois nécessaires quand ils viennent, quand un mot vient dire un objet ou un complexe concept nouveau. Mais souvent, c'est une simple mention. On dit un mot anglais plutôt qu'un mot français parce que c'est plus moderne, plus dynamique. Tout cela est ridicule.
Et cela, ce propos que je salue et que j'approuve, me paraît prendre d'autant plus de force que vous avez constamment prêché pour l'enrichissement de notre langue et pour son adaptation. Et c'est très clair dans le livre que j'évoquais tout à l'heure et que j'ai sous les yeux. Enrichissez-vous, parlez francophone. Je peux dire que c'est un livre délicieux.
Merci
parce
beaucoup.
Qu'il est d'une efflorescence langagière qui fait le bonheur du lecteur. Le sous-titre, c'est « Trésor des expressions et mots savoureux de la francophonie ». C'est extrêmement savoureux. L'éditeur est Larousse. Pierre Larousse étant salué aussi comme un grand personnage de la francophonie.
Il a 200 ans cette année.
Eh bien, je le sais, il vient de paraître d'ailleurs un livre consacré sous les auspices de
Bernard Chauveau.
Dans l'éditeur Bernard Chauveau, c'est Sylvie Andreux qu'il a organisé. On le trouve au Salon du Livre, dont vous savez que nous vous parlons. Il suffit d'entendre le brouhaha alentour, brouhaha d'affection et de sympathie. Vous avez également publié un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Une langue orpheline ». On revient à l'idée de tout à l'heure, orpheline, ça veut dire par rapport au latin, aux éditions de Minuit en 2007. Et puis je voudrais adresser deux saluts. L'un à Alain Borer, qui a publié un livre qui s'appelle « De quel amour blessé, réflexion sur la langue française ». Gallimard, en 2014, on lui trouve notamment l'observation qu'on peut facilement faire des phrases en anglais entièrement composées de mots français. Qui viennent du français.
Bien sûr.
Vous avez bien aimé ce livre.
Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est un grand écrivain et qui dit son amour de la langue française de façon un peu défensive, mais pourquoi pas, il faut le faire.
Nous ne pouvons pas nous quitter sans saluer également à nouveau Pierre Encrevé et Michel Brodeau, qui ont écrit des conversations sur la langue française, paru chez Gallimard 2007. C'est extrêmement précieux.
Admirable.
Vous trouverez une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également réécouter cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de l'histoire des fausses nouvelles. Fake news, je n'ai pas besoin de vous dire l'actualité, Bernard Cerclini, et je recevrai le grand universitaire américain qui est Robert Danton.